Vous écoutez RTL.
Mais Paris, mais Paris.
Toute la semaine, nous nous replongeons dans les archives d'RTL pour comprendre et expliquer les origines d'un mouvement qui a bouleversé le monde. Je veux bien sûr vous parler du printemps 1968 qui fête ses 50 ans cette année.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Serge Julie.
Bonjour.
Hier, nous évoquions la société de consommation avec l'arrivée par exemple de la carte de crédit. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la pop culture, forcément emblématique pour cette génération. Écoutez ce reportage de Patrick Penaud, diffusé sur notre antenne le 23 mai 1966, lors du passage de Bob Dylan à Paris.
Il est 16h15. Bob Dylan arrive avec un quart d'heure de retard. Veste de daim bleu, chemise à fleurs bleues, pantalon bordeaux, fine botte de daim. Bob Dylan aime s'habiller. Il tient à la main un pantin désarticulé, sa religion, dira-t-il plus tard. Et puis il s'assoit. Alors on découvre son visage, un visage de fille un peu trop long. Sous les grands cheveux hirsutes et bouclés, Bob Dylan a rayé le mot « peigne » de son vocabulaire. Le visage est pâle, aussi pâle que ses yeux bleus. C'est un visage d'enfant malade, mal nourri, avec des poches sous les yeux. Bob Dylan demande une cigarette. On voit ses mains, de grandes mains très longues, aux ongles trop longs. Il croise ses jambes, attend les questions. Pourquoi chantez-vous ?
It's because I feel like singing.
Parce qu'il a envie de chanter, qu'il aime chanter. Do you consider yourself a writer ?
No.
Non.
Non, Bob Dylan n'est pas un écrivain. Avec ces deux premières questions, le ton de la conférence est donné. Bob Dylan s'amuse, se contredit, parle peu, réponse qui lui passe par la tête sans conviction. Que faites-vous de votre argent ?
I wear it.
Et il achète des vêtements.
Et le Vietnam ? Pour Bob Dylan, le Vietnam connaît pas. Les morts du Vietnam connaît pas.
I don't make money on the Vietnam thing.
Il ne gagne pas d'argent sur le thème du Vietnam.
Quelles sont vos joies ?
Smoking and eating.
Fumer et manger.
Anything.
What? N'importe quoi.
En fait, c'est un dialogue de sourds. Bob Dylan parle un autre langage ou se moque de tout. C'est Bob Dylan, triste et ennuyeux.
Alors là encore, dans cette archive, un décalage extraordinaire. Serge Julie, quel rôle a joué la culture dans les contestations des années 60 et bien entendu de mai 68 en particulier?
Oui, il y a à la fin des années 50, début 60, une période très créative sur le plan culturel. Ça a commencé aux États-Unis, Elvis Presley, 56. Mmh. En France, à la fin des années 50, il y a beaucoup d'écrivains qui se mettent sous l'étiquette du nouveau roman, qui bouleversent la langue, qui se libèrent du carcan de l'intrigue et vont engendrer dans les salles de spectacle ce qu'on va appeler le théâtre de l'absurde. Une génération, il ne faut pas l'oublier, récompensée par deux prix Nobel de littérature, Samuel Beckett et Claude Simon. En Grande-Bretagne, ce sont aussi les écrivains appartenant au groupe des jeunes hommes en colère qui mènent la danse. Enfin, on a la nouvelle vague du cinéma avec les 400 coups de François Truffaut en 59, À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960, qui change la manière de tourner, de faire l'acteur, de parler. On entend encore Gene Seberg demander à Belmondo « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Dégueulasse.
Ah, vous faites bien, Gene Seberg. Alors, pourquoi parle-t-on de pop culture, Serge ?
Le peintre Andy Warhol théorise en 1962 le pop art qui utilise des éléments visuels issus de la culture populaire en opposition à la culture élitiste. Il utilise un outil, la sérigraphie, qui va simplifier et contribuer à l'iconographie des 60s. On pense aux affiches de mai 68. Pop est une formule qui va devenir générique pour toute la culture des années 60.
Une nouvelle génération de musiciens, d'interprètes, compositeurs aurait précédé le mouvement.
Elle a envahi l'univers radiophonique et colonise les bacs chez les disquaires. Johnny Hallyday en 62 est sacré l'idole des jeunes. La même année paraissent les premiers disques de Bob Marley, celui des Beatles, Love Me Do, et tandis que les Rolling Stones font leur premier concert. Alors en juin 63, l'année d'après, Johnny Hallyday salue les copains, rassemble 150 000 personnes place de la Nation pour le concert public qui est le premier de l'histoire à l'occasion de l'anniversaire du magazine. À l'issue de la marche des droits civiques à Washington en août de la même année, à l'appel de Martin Luther King, devant 200 000 personnes, Bob Dylan chante « Times, they are changing », qui
changent.
Devient une sorte d'hymne national. Plusieurs des slogans de la contestation sont lancés par les poètes de la pop. « All you need is love », des Beatles en 67, on s'en souvient, qui va contribuer au mouvement hippie. La même année, les Doors chantent « Nous voulons le monde, ils nous voulons maintenant ». Lennon, en 1970, chante « Power to the people ». Tous ces artistes sont les vrais leaders des années 60.
Quelle belle discographie. Merci Serge Julie. On vous retrouve demain pour un nouveau 3 minutes pour comprendre mai 68. Cette fois, ce sera sur la fin de la légitimité du Parti communiste. Power to the people. Power. Je vais peut-être vous emmener à Londres, Serge, on va retravailler notre anglais, notre accent ensemble, vous verrez, ça sera pas mal du tout. Notez d'ores et déjà que demain, à partir de 18h, vous pourrez revivre les événements de 68, comme si vous y étiez, avec les meilleurs programmes et les interventions des reporters d'RTL lors des temps forts de la révolte étudiante. Nous lançons pendant 24 heures une radio éphémère, RTL Radio 68 sur RTL.fr et en simultané sur RTL durant la nuit.